Proverbe chapitre 6, verset 10. Je suis sûr que tous, vous vous êtes arrêtés un jour sur ce proverbe. Tous. Je crois que tous les chrétiens ont fait attention à ce proverbe. Tous. Proverbe 6, verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Je le relis pour ceux qui viennent juste de découvrir le texte. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, nous avons une parabole que le Seigneur Jésus nous a laissée dans le cadre de l'enlèvement. Matthieu chapitre 25, c'est une parabole qui parle de la paresse, des dangers de la paresse. Qu'arrivera-t-il aux paresseux ? Matthieu 25, verset 14. N'oubliez jamais que c'est Jésus qui parle, le Seigneur de l'univers. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses. » Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et l'Église dit, Amen. Amen, c'est la parole. Ça fait partie de ces 7 textes, comme je l'ai souvent enseigné, où Jésus parle sur les pleurs et les grincements de dents. Mardi dernier, si vous étiez là, nous avons partagé le texte qu'il y a dans Matthieu 24, en ce qui concerne, pareil, le fait de ne pas faire ce que Dieu nous demande, de ne pas le faire bien et de le faire d'une manière hypocrite. L'œuvre de l'Éternel, c'est sérieux. Vous êtes d'accord? La chose la plus importante sur la terre, c'est quoi? L'ONU, l'organisation, vous avez vu comment l'ONU travaille? Sans commentaire. Vous avez vu comment le monde travaille? Mais dans la maison du Seigneur, on fait l'œuvre de Dieu avec sérieux. Le salut des âmes, c'est très joyeux, mais c'est très sérieux. Et les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, il s'adresse chaque fois aux chrétiens qui ont été négligents. D'ailleurs, il y a un verset, je l'ai marqué, dans Jérémie 48, 10, ne le cherchez pas. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est des obstacles, ça. Souvent, on se dit, mais comment je dois travailler dans la maison de Dieu ? Même si vous ne faites que des choses qui ne se voient pas. Vous voyez, présenter les cantiques lorsqu'on va chanter, est-ce que c'est important de bien les présenter ? Oui. Faire le ménage dans l'église, oui, tout est important. Dieu regarde au cœur. Et lorsqu'on se retrouve dans la maison du Seigneur, comme c'est le cas ce soir, comme on l'a fait tout à l'heure, pour combattre le bon combat, tout à l'heure, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, cela va être une réunion différente, dans le sens où on va partager la communion fraternelle. Est-ce que vous avez envie de faire du bien à quelqu'un après la réunion ? Est-ce que c'est important pour vous de faire du bien à quelqu'un ? Vous savez, je pense que c'est la vérité. Après la réunion, vous pouvez discuter avec quelqu'un et recevoir une parole de Dieu. L'œuvre de l'Éternel, il faut la faire avec conscience. On l'a vu dimanche dernier, qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu ne veut pas qu'on soit des gens hypocrites. Dieu veut qu'on soit des gens sincères. Et si le Seigneur, cette fois, je l'ai répété souvent, a répété cette parole, et chaque fois, bien sûr, dans sa pédagogie, il donne un enseignement différent, c'est parce qu'il faut qu'on en retienne un enseignement. Pourquoi ? Eh bien parce que, voyez, cette parabole nous rappelle qu'un jour il faudra rendre compte. On l'a lu au verset 19, longtemps après, parce qu'il y a des gens ici, imagine qu'ils ont 100 ans devant eux. Il y a des gens, quand ils vivent, ont l'impression qu'ils vont vivre 300 ans. Ils ne pensent pas qu'un jour ils vont passer devant Dieu. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Je sais que souvent j'appuie là-dessus, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous le croyez ? Sérieusement, est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous appréhendez ? Parce que quand même, c'est la vérité. Bientôt, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et c'est vrai que notre approche, notre comportement, par rapport aux épreuves, par rapport aux échecs, par rapport à tout, quelle grâce d'avoir un Dieu qui pardonne. Vous savez, quand notre frère Jonathan D'Agostino, dimanche, lisait le texte sur Josué, qui est là devant Jéricho, et que tout d'un coup, il voit un homme, et qu'il se rend compte au bout d'un petit entretien, que cet homme, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, ça fait 40 ans que j'attends. Est-ce que Jésus aurait pu dire, sérieusement, est-ce que Jésus aurait pu dire, ça fait 40 ans que je t'attends, Josué, il y en a assez. Est-ce qu'il aurait pu le faire ? Que nous avons un Dieu qui est bon. Et ce soir, la bonté de Dieu peut être notre partage. Nous avons un Dieu qui, au travers de cette parabole, nous prouve qu'il attend que l'on fasse quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose. Parce que mettre l'argent dans une banque pour en faire valoir les intérêts, ce n'est pas quand même le bout du monde. Mais ça prouve que tous, même si on n'a pas reçu 5 talents, il y a des gens qui ont la possibilité de faire davantage de choses. Oui ou non ? Ce n'est pas grave, on voit bien que Dieu n'est pas inquiété par le fait qu'une personne ait plus de capacité que d'autres. Il y a des gens, vous leur demandez un truc, ils mettent 3 mois à le faire. Il y a des gens, vous leur demandez la même chose, elle est faite dans la journée. Oui ou non ? C'est comme ça, il y a des gens plus rapides que d'autres. Ça, ce n'est pas grave. Mais une chose est certaine, c'est que ces textes-là doivent nous faire réfléchir. Quand on vient dans la maison de Dieu, je l'ai dit, on vient pour la communion fraternelle, parce qu'on aime la communion fraternelle. On vient pour combattre le bon combat, parce que la maison de Dieu est une maison de prière. Mais on a besoin d'être exhorté, d'être enseigné, et de dire, mais c'est vrai que je vais passer devant le Maître du ciel et de la terre. Par rapport à tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, la dernière exhortation dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Alors ça va loin cette affaire, ça va très 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 loin, puisque Jésus va même jusqu'à dire que quand on aura donné un verre d'eau froide à quelqu'un, donc quand on aura fait des choses toute petite. Un verre d'eau froide, ça correspond à une chose petite. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Même les toutes petites choses, nous, on n'y fait pas attention. Vous téléphonez, tiens, il n'y a pas Madame Untel ce soir, demain je vais l'appeler pour savoir si elle est malade, un truc comme ça. C'est ça, un verre d'eau. C'est pas grand-chose, un coup de fil, 30 secondes. Madame Untel, vous allez bien parce que vous n'étiez pas là hier soir à la réunion ? Oui, oui, ça va, vous inquiétez pas. C'est un verre d'eau. C'est enregistré. Si vous l'avez fait pour Dieu de tout votre cœur, c'est comme ça. C'est ça, un verre d'eau. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question de se promener avec une bouteille. C'est une question de réaliser qu'il y a des choses petites qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, on va lire encore un verset, gardez Matthieu chapitre 25, mais il y a un verset dans 1 Jean chapitre 2 qui nous parle de... C'est un verset, moi, qui m'a toujours fait réfléchir quand j'ai étudié sur la vie de l'Esprit. Vous savez, quand on dit « soyez remplis », c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ? Eh bien, regardez le verset 8 de la deuxième épître de Jean. C'est un verset quand même qui nous aide à faire valoir les talents. 2 Jean, verset 8. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ce verset, mais quand même, c'est très encourageant. Bien sûr, tout le temps dans le même cadre, un avertissement aussi, prenez garde. Vous avez remarqué combien de fois c'est écrit prenez garde, ça veut dire faites attention. Regardez, 2 Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez, quoi ? Une pleine récompense. La volonté de Dieu, vous savez, sur la terre, il y a des choses, il y a plein de choses, mais là, nous voyons quand même que la volonté de Dieu, c'est que chaque chrétien reçoive une pleine récompense. Alléluia ! Ça vous est égal qu'on parle des récompenses, ou vous en fichez, ou est-ce que c'est important pour vous les récompenses ? Est-ce que c'est important ? Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, monsieur Gaud, ne parlez pas de récompenses, on s'en fiche, on n'a pas besoin, il s'agit qu'on soit sauvé. Je dis, vous savez, dans la vie, moi, je trouve qu'il y a des moments difficiles. Ça fait du bien aussi. Et si le Seigneur en parle, c'est qu'on en a besoin. S'il ne fallait pas en parler, ça ne serait pas dans la Bible. Et il y a des gens, vous voyez, qui, je ne sais pas si c'est de la... Pour moi, c'était de l'orgueil, de la fausse spiritualité. Mais franchement, moi, ça me fait du bien de savoir qu'on peut avoir une pleine récompense. Et que tout a été enregistré. Chaque prière qu'on aura fait de bon cœur. Vous voyez, tout à l'heure, on a prié. C'est, vous avez prié à haute voix, à mi-voix ou pas. Vous avez pas, on ne vous a pas entendu, mais vous étiez avec nous. Vous avez dit amen à chaque prière. C'est ça, les verres d'eau. On fait quelque chose. Je suis encore timide, je n'ose pas prier à haute voix. Mais ça ne fait rien. Amen. Madame Untel a prié. Amen à sa prière. Oui, je veux que des gens soient sauvés là-bas, aux Antilles. Je veux que le cyclone évite... Oui, est-ce qu'un cyclone peut éviter... Bien sûr, Dieu est tout puissant. Il est tout puissant, le Seigneur. Une pleine récompense. Retiens Apocalypse 3, 11. Lisez-le, puisque quand même, il y a des versets, ils sont là, il faut les lire, ces versets. Parce qu'il y aura des pleurs et il y aura des grincements dedans. Est-ce que vous vous rendez compte, quand Jésus va revenir, tous les pleurs qu'il va y avoir sur la terre, c'est certainement le jour où on va peut-être le plus pleurer sur la terre. Parce que les gens n'auront pas fait attention à ces choses. Regardez Apocalypse 3, l'église de Philadelphie. Une église qui va bien, il n'y a aucun reproche dans cette église. Il n'y a aucun reproche, même pas demander de repentir, rien du tout. Mais pourtant, il y a quand même des avertissements. Apocalypse 3, verset 11, c'est une très bonne église. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous vous rendez compte, quand on va passer devant Dieu, il y a des gens qui auront des couronnes. Il y a des gens qui auront des couronnes. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Vous rappelez ? Vous savez ce qu'on va en faire, la couronne ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va la garder ? Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire de la couronne ? On va la jeter au pied du Seigneur. Vous en êtes sûr ? Certains ? Oui, c'est ça. Pourquoi on va la jeter au pied du Seigneur, la couronne ? Est-ce que vous avez compris pourquoi vous faites ? Parce que vous n'aimez pas les bijoux, c'est ça ? Pourquoi on va jeter la... Parce que toutes les victoires qu'on aura eues, ça sera grâce à qui ? Ben, ça sera grâce au Seigneur. Donc quel bonheur de lui rendre cet honneur. Mais quand même, avant-hier, j'ai envoyé un texto à une dame qui a marché avec Dieu 40 ans. Elle a rétrogradé. Vous voyez ? Elle n'a pas fait attention à ce verset. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si je vais bien le dire, mais il y a des gens qui vont rétrograder peut-être quelques jours avant l'enlèvement. Ils vont s'arracher les cheveux. Vous ne croyez pas ? des gens qui ont marché avec Dieu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pourquoi? Mais pourquoi, comme le roi Asa, je crois que c'est le roi Asa, il a marché 36 ans avec Dieu. Et la 37e année, avant de mourir, il a abandonné Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Est-ce qu'il ne manque pas de conscience, de respect? Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le diable, c'est un voleur. Et il faut veiller, c'est pour ça qu'on est là. Donc le Seigneur nous donne cette parabole qui est dans le contexte de l'enlèvement, le contexte du jour où on devra rendre compte. Il faut que ça soit un jour béni, ce moment. Je ne sais pas, il y a des jours importants. Il y a eu des jours importants dans votre vie? D'après vous, quel sera le jour le plus important pour vous dans votre vie temporelle et éternelle? Est-ce que ce n'est pas ce jour-là? Ce jour où, je ne sais pas, dans quel endroit, dans quelle salle, dans quel bureau, où ça va se passer, mais ça va arriver. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Vous avez envie d'entendre « Entre, bonne et fidèle servante ». Et je pense que ça, c'est synthétisé. Mais il se peut que Jésus nous dise beaucoup plus de choses que ça. Vous avez envie de voir son regard au Seigneur? Vous n'avez pas envie? C'est Jonathan qui nous disait tout à l'heure qu'on va le voir. Là, on ne le voit pas. On le voit par la foi. Quand la Bible dit « nous le voyons couronné de gloire et d'honneur », oui, d'accord. Mais on va le voir. Vous allez voir ses yeux. Vous allez voir est-ce qu'on va voir les cicatrices dans ses mains? Eh oui. Moi, je vais m'arranger, je vais tout faire pour les voir. Je me connais, je vais dire, Seigneur, montre-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas, peut-être on n'osera pas. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un moment qui nous exalte, oui ou non, quand même. Et si le Seigneur a pris le temps de nous donner des paraboles, c'est pour que l'on puisse dire, mais Seigneur, je veux absolument faire partie de ces gens fidèles, prudents, sincères, heureux de te servir. C'est une grâce quand même d'avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur, un talent, un tout petit talent, la voix. Est-ce que c'est une grâce d'avoir une voix? Est-ce que vous auriez pu naître muet? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible où Dieu dit « c'est moi qui rends muet ou aveugle » Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a des textes qui disent « moi l'Éternel, je rends muet, sourd et aveugle » Est-ce que c'est écrit? Oui. Est-ce qu'on aurait pu naître muet? Mais oui. On aurait pu naître aveugle, oui ou non? Donc avoir une bouche, c'est un talent. Seigneur, la voix que tu m'as donnée, je veux l'utiliser. Je n'ai pas grand-chose, c'est vrai, je sais pas. Mais la voix que j'ai, je peux l'utiliser chez moi pour prier. Franchement, parce que personne n'est l'idiotie de dire, moi j'ai reçu aucun talent, vous seriez pire que le troisième cas là. Parce que laissez-moi vous dire que cette parabole d'une simplicité que les enfants comprennent nous laisse à penser que nous avons tous reçu un talent. La voix que Dieu nous a donnée, la bouche que Dieu nous a donnée, parce que quand même je crois en plus que c'est un grand talent, parce que pour moi le plus grand service c'est l'intercession. Donc comment je fais valoir les talents? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Peut-être que certains sont là en train de dire, mais moi je sais même pas ce que j'ai reçu. Moi ça me brise le cœur quand j'entends. Alors c'est quand un chrétien vient de se convertir, quand un pécheur vient de se convertir, il y a un mois qu'il est chrétien, il y a un an qu'il est chrétien, il ne sait pas trop, il est là, il hésite. D'accord? Mais au bout de quelques temps quand même, je crois que le Saint-Esprit nous met à cœur certaines choses. Oui ou non? Je crois quand même que le Seigneur va nous mettre à cœur. C'est pas possible qu'un chrétien au bout de 3 ans, 4 ans de conversion soit là en train de dire « Ah, moi j'ai rien reçu, écoutez-moi, quand vous allez passer devant Dieu, je pense que vous n'allez pas avoir la même version que le pasteur. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'on vous secoue, qu'on vous oblige à faire quelque chose? Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, je fais les choses de bon cœur. Quand Jésus parle de la porte qui va se fermer, le 7e texte où il parle des pleurs et les grincements dedans, c'est une des prophéties les plus terribles du Nouveau Testament. Quand la porte va se fermer, quand le maître de la maison va fermer la porte, Jésus dit pas, il dit rien d'autre, qu'est-ce qu'il dit? Efforcez-vous. Donc ça prouve que même là, il ne nous force pas.
Mais ce soir, nous devons quand même dire, mais c'est vrai, le Seigneur va bientôt revenir. Il y a des paraboles dans la Bible, la parabole des mines, la parabole de l'économe infidèle, où on voit bien que le Seigneur est assez sévère. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et je crois que nous devons être sérieux quand même. L'Église, c'est pas un pasteur qui se démène. L'Église, c'est le pasteur et les chrétiens qui travaillent ensemble pour le salut des âmes. La présence de Dieu qui se manifeste par le Saint-Esprit, c'est le résultat de tout un ensemble, c'est tout le corps. N'allez pas me dire que ça dépend que du pasteur. Ça dépend du pasteur et des chrétiens de travailler ensemble pour que la présence de Dieu se manifeste dans l'Église. Et nous devons faire des choses. Nous ne pouvons pas ne pas faire certaines choses. On va lire dans Jacques au chapitre 2, ce texte que vous connaissez bien, je pense. Mais c'est quand même, c'est des textes. Vous savez, ce texte, il est tellement fort que Luther, vous savez, les réformateurs, Luther, ont cru que l'épître de Jacques n'était pas inspiré. Et on comprend pourquoi, c'est facile à comprendre. Parce que eux qui ont enseigné le salut par grâce, Jacques chapitre 2. On va lire deux versets, Jacques 2, verset 20. Quand même, c'est quand même sérieux, c'est des questions en plus. Les questions, vous le savez, je l'ai souvent dit, il faut y répondre. Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme, 20. Oui, ô homme, 20, ça veut tout dire. Hein. 20, ça veut dire ça veut dire inutile, vous voyez. Que la foi sans les œuvres est inutile. Vous savez, quand c'est Jacques qui dit ça, bon, vous dites, ouais, c'est Jacques. Mais quand ça sera Dieu, moi, j'aimerais pas que Dieu me dise, tu as été vain, t'as servi à rien. Vous savez, comme ce figuier, là, quand Jésus parle du figuier, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vous aimeriez, quand vous passerez devant Dieu, que Dieu vous dise, écoute, Bernard, il n'y a pas de Bernard? Non, mais sérieusement, Bernard. Sur la terre, t'as servi à rien. Je fais un AVC dans le ciel, je suis sûr. Est-ce que vous réalisez? Parce que quand Jésus parle des arbres, il s'intéresse pas à des arbres, il s'intéresse aux gens. T'as occupé la terre. Il y a des gens, ils sont sur la terre, ils servent à rien. Oui ou non? Il y a des gens, ils ont 50 ans, 60 ans, mais même des gens au placé, je suis sûr que même au gouvernement, il y a des gens à qui Dieu va dire, tu t'as servi à rien. Des gens qui croient parce qu'ils brassent de l'air, Dieu leur dira, t'as servi à rien. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que vous ayez une pleine récompense. Une pleine récompense, pas des bricoles. Une pleine récompense. Regardez au verset 26, il n'est pas le verset 29. Regardez bien, un autre verset, ça complète. Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc c'est la preuve que quand je ne fais rien pour Dieu, je suis mort. Et il y a des gens qui ont dit, ah mais moi je fais tout par la foi, je vais à l'église par la foi, je vais pas dans la maison de Dieu mais j'y vais par l'esprit. Voilà, c'est comme le gars qui, vous voyez, qui avait dit, je viendrai t'aider demain à déménager, et le gars il est pas venu, mais je suis venu en esprit. Et le gars il dit, la prochaine fois que tu auras besoin de service, moi aussi je viendrai en esprit, il a dit. Bon mais, c'est un commentaire. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et une question qu'on doit se poser, comment je le sers? Pourquoi je le sers? Mes frères et sœurs, nous allons comparaître devant le Seigneur. Il faut que ce soit le meilleur moment de notre existence. Il faut que ce soit le moment le plus merveilleux, revêtu de fin lin, éclatant, pur. Je ne sais pas comment ça se passera, s'il y aura du monde autour, s'il y aura des anges, je ne sais pas. Mais il nous faut comparaître devant le Seigneur. Il faut que le Seigneur Jésus soit notre avocat. Il faut que l'on soit clean, excusez-moi l'expression. Voilà, si j'ai commis quelque chose, il faut que je me remette à jour. Il faut que dans la maison de Dieu, je m'arrange pour faire quelque chose. J'ai peut-être qu'une heure, mais eh bien, je vais aider pour le ménage. Je vais aider pour les enfants. Je ne peux pas m'occuper des enfants. Mais je vais demander la liste de tous les enfants. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Je veux avoir la liste de tous les enfants, de tous les adolescents de l'église. Et je vais tous les jours prier pour eux. C'est ça, faire valoir. Il y a des gens, mais ils s'en fichent, les autres, ils n'en ont rien à faire. Mais moi, je crois qu'une personne, par exemple, pourrait avoir envie de s'occuper des enfants, mais qu'elle ne peut pas, parce qu'elle en a trop déjà chez elle. Parce que... Mais franchement, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit pour lui demande la liste, mais prend la liste de tous les pasteurs de France. Est-ce que moi, je me rappelle Mme Ricard, qui était âgée, là, qui ne pouvait plus venir pendant des années, elle me tarabustait au téléphone, « Monsieur Gou, amenez-moi la liste des pays persécutés, amenez-moi la liste de ceux-ci qui est en difficulté, les pasteurs malades. » Et tous les jours, elle passait, elle avait 95 ans. Elle passait une heure dans la prière. Moi, je me réjouissais quand je voyais ça. Dieu l'a vu, personne l'a vu dans l'église. Personne l'a vu. Vous le savez parce que je vous le dis. Mais Dieu l'a vu, ça. Et voyez, mes frères et sœurs, quand même, quand il est dit, les pasteurs, ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Je pense que chacun d'entre nous, nous devons veiller attention à ne pas nous réfugier derrière la famille, les enfants, le boulot, la fatigue. Déjà, ils ont 20 ans, ils sont déjà fatigués. Ils sont toujours fatigués. Pas pour aller au cinéma. Pas pour aller le samedi soir à l'anniversaire d'Hugo, parce qu'Hugo, le fils de la voisine, m'a invité pour l'anniversaire. Mais là, c'est bizarre, je ne suis pas fatigué. On est rentré à 1h du matin. Ah, par contre, on était fatigué pour aller au culte. Moi, franchement, ça me fait peur. Moi, je suis pour la détente et je suis pour les anniversaires et tatati. Mais c'est bizarre comment tout d'un coup, on n'est pas fatigué pour aller au resto. On est fatigué pour aller à l'église le dimanche. Moi, je pense que, hélas, beaucoup de chrétiens s'entendront dire qu'ils ont été des paresseux. Moi, je ne suis pas habilité avec Monsieur de Dieu et on dirige l'église, tout ça, avec les anciens. On n'est pas capable de savoir certaines choses, mais Dieu, lui, voit les cœurs. Et si on a été léger, ça va ressortir, croyez-moi. Et il vaut mieux sur la terre prendre les devants et dire, Seigneur, Dieu vous le montrera. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous me dites, à moi, Dieu m'a rien montré, eh bien, c'est que vous avez rien voulu savoir. Mais je peux vous dire que si dans votre chambre, vous dites à Jésus, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse, c'est pas possible qu'il vous le montre pas. Eh bien, faisons-le. Il faut qu'on entende. Moi, j'aimerais. Vous savez, je vous le dis parce que ça va faire 20 ans que je suis là. Moi, ma plus grande joie, c'est, je vais vous le dire ce que c'est. Ma plus grande joie, ce serait que tous les chrétiens de l'Église soient sauvés. C'est l'honneur d'un pasteur, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a des églises où tout le monde n'est pas sauvé. Moi, après, même si je sais que ça ne dépend pas de moi. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y en a qui ne veulent pas obéir, Judas, est-ce qu'il avait un bon pasteur? Moi, je trouve qu'il avait quand même un pasteur qui tenait debout. Et pour ça, il n'a pas empêché d'aimer l'argent et de se suicider. Mais quand même, je crois que c'est beau aussi dans une église quand le maximum d'hommes et de femmes sont sérieux. Et ils disent, Seigneur, tu vas nous aider. Moi, je vous le dis, frère et soeur, Jésus va revenir. Vous le croyez vraiment? Je termine vraiment, mais je voudrais vraiment qu'on puisse peut-être aider quelqu'un. Aider quelqu'un qui est en braque vraiment. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, il y a 20 ans qu'ils font rien. Rien. Moi, j'ai peur qu'ils s'entendent dire méchant serviteur, paresseux. Moi, ça me fait peur, ça. Ma joie serait que tous les chrétiens de Saint-Anne soient sauvés, j'ai bien peur que quand même quelques-uns entendent. Hélas, retire-toi de moi. Franchement, vous sauriez que Jésus va revenir au mois de septembre. Est-ce que Jésus pourrait revenir au mois de septembre? Est-ce que ça pourrait arriver que Jésus revienne ce mois-ci? Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre dernière prédication? Qu'est-ce que vous lui diriez au Seigneur? Ça regarde peut-être que vous, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais peut-être qu'on ferme les yeux et qu'on demande au Seigneur de nous aider. Vous savez, c'est sérieux. Ce soir, on peut tous sortir guéris, relevés. Je suis certain que si Dieu m'a mis à cœur cette exhortation, à moins que je me sois trompé, c'est possible aussi. Mais imaginons vraiment que cette parole soit vraiment venue de Dieu. Et qu'il y ait quelqu'un dans l'assemblée qui dise, mais moi je veux pas entendre cette affaire. Moi je veux être dans une pleine récompense. Même si Jésus revient dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 mois, dans 2 ans, au moins que les derniers jours, comme Samson, qui me restent à vivre, tout soit réparé. Est-ce que Dieu pourrait guérir quelqu'un ce soir qui est paresseux depuis 20 ans? Mais bien sûr. On est là pour se bénir les uns les autres. On n'est pas là pour jouer la comédie. L'église du Seigneur, ce n'est pas le blablabla, ce n'est pas du cinéma. L'église du Seigneur, ce sont des chrétiens qui sont bénis. Et alors qu'on a les yeux fermés, il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi, il faut que je prenne cette victoire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas partir dans l'éternité en étant dans cette défaite. Je suis tout le temps fatigué, c'est vrai, pour Dieu. Lire ma Bible, j'ai plus envie. Je suis fatigué pour lire la Bible. Par contre, je ne suis pas fatigué pour regarder la télé, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut de l'aide? Vous savez, personne ne regrettera d'avoir demandé de l'aide à Jésus. Personne. Je me souviens, moi, de ce soir, il y avait 400 pasteurs, je me rappelle. Et il y avait eu un appel pour les pasteurs qui étaient négligents envers leurs épouses. Et je me suis assuré, je me suis levé le premier, j'étais devant. Et Dieu m'a aidé. Parce que je m'occupais de l'église, mais je ne m'occupais pas de ma femme. Et je peux vous dire qu'à partir de ce soir-là, Dieu m'a aidé. Ça m'était égal. Il y avait 400 pasteurs, ceux qui pensaient, ça m'était égal. Je voulais que Dieu m'aide. Et je savais que Dieu m'aiderait. J'ai presque couru. C'est la première fois que j'ai un appel. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui dit il faut régler cette affaire, un peu de paresse, un peu de paresse et le diable, il fera le reste.